enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
On va lire deux versets, que c'est le psaume 119. On va d'abord lire le 11 qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Et on va lire aussi le 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Isabelle, c'est David qui a dit ces paroles.
Ça, on n'en sait rien parce que ce n'est pas précisé. Mm-hmm. Donc, quand les psaumes sont écrits par David, souvent c'est dit psaume de David, ou si c'est quelqu'un d'autre, c'est psaume d'Azaph, on peut voir ça, ou les fils de Corée. Mm-hmm. Il y a aussi même un psaume qui a été écrit par Moïse. Excusez-moi. Mais pour ce qui concerne le psaume 119, il n'est pas dit qu'il l'a écrit. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as choisi comme verset, c'est que tu as choisi le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Et juste avant, au verset 9, il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et ça s'adresse tout spécialement aux jeunes, même si ça concerne tout le monde. Comment est-ce qu'on peut... On peut marcher d'une façon qui est juste, qui est droite. Eh bien, c'est en cherchant le Seigneur de tout notre cœur et en se dirigeant d'après sa parole. Et c'est pour ça qu'il conclut au verset 11 en disant « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi ». En fait, quand on aborde ce genre de verset, ce genre de parole, il faut comprendre une chose, c'est que d'abord le péché, c'est ce qui détruit notre vie. C'est pour ça que on parle toujours de péché, et quand on parle péché, on parle quelque chose de mauvais. Quelque chose qui peut paraître bon au premier abord, et surtout je sais que c'est le cas chez les jeunes ou chez les personnes qui ne sont pas vraiment solidement ancrées dans la parole de Dieu. Parce que ils voient le péché comme quelque chose de pas grave, que tout le monde pratique, que tout le monde vit, et que finalement... on peut se permettre de temps en temps des écarts. Et quand on a ce genre de mentalité, on permet plus facilement au péché d'entrer dans nos vies. Et quand tu permets au péché d'entrer dans ta vie, finalement, tu permets à la destruction d'entrer dans ta vie. C'est ça que la parole de Dieu nous montre. Et quand on parle de péché, de se séparer du péché, de ne pas pécher, de ne pas vivre dans le péché, si Dieu nous montre ces choses, c'est parce qu'il nous aime. Il va l'effacer, c'est pas grave. Donc, quand on parle de péché, on doit toujours avoir cette image, quelque chose qui me détruit, quelque chose qui me nuit. Pour donner un peu une idée, c'est une image, bien sûr, un exemple, c'est un petit peu comme la maladie, tu vois. Bien sûr, la maladie et le péché, ce sont deux choses différentes. Mais quand la maladie atteint ton corps et elle rentre dans ta vie, elle te détruit.
Ouais.
Bon, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres, mais il faut savoir que le péché, d'abord, c'est ce qui mène l'inconverti en enfer. Donc, c'est quelque chose de grave. Et pour le chrétien, c'est ce qui déstabilise sa vie, c'est ce qui lui crée des problèmes, qui amène de la tristesse, de la destruction, des choses qu'il regrettera par la suite. Le goût du péché, c'est ce dont on profite à l'instant même, mais qu'on va, payer plus tard. Parce que c'est comme si tu sèmes un peu de la mauvaise herbe dans un terrain. Quand il y a du blé, des bonnes choses, bon, les bonnes choses poussent, mais aussi les mauvaises choses poussent, et tôt ou tard, les mauvaises vont étouffer les bonnes.
Mmh. Oui, chers auditeurs, Dieu nous appelle à vivre une vie sainte, une vie qui lui plaît. Et voilà alors la question qui revient. Comment un jeune homme, comme toi qui es en train de nous écouter, tu peux rendre tes voies pures?
Donc, si le Seigneur nous montre de rendre nos voies pures, c'est parce que d'abord, il est le péché. C'est comme Quelqu'un de normalement constitué, il va détester la saleté dans sa maison ou de porter des vêtements sales. Il ne va pas aimer ça. Et aussi parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas que nos vies soient détruites parce que il connaît les conséquences du péché. Donc c'est pour ça que on est encouragé dans ce sens-là. Et bien sûr, ce qui va nous aider, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un sentier à suivre. Bon, le psaume qu'on est en train de, les versets de ce psaume qu'on a lu, c'est l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament, c'est la loi, c'est-à-dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, en tant que chrétien, né de nouveau, nous ne vivons pas sous la loi. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans le péché ou on doit vivre n'importe comment, mais il y avait un but spécifique à la loi. J'aimerais qu'on puisse aussi en parler un petit peu pour que ceux qui écoutent l'émission et qui réfléchissent sur ce verset puissent aussi comprendre le contexte. Donc, Dieu a donné la loi à Moïse pour le peuple d'Israël, afin de montrer aux gens qu'ils sont pécheurs. Tu vois, quand tu fais une chose qui n'est pas bonne et que tu ne sais pas qu'elle n'est pas bonne, bon, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, parce qu'elle est mauvaise. Mais tant qu'on ne te le dit pas, bon, tu le fais, tu continues à le faire, et Dieu a donné la loi pour qu'il y ait la connaissance du péché. Donc, ceux qui savent ce qui est mauvais et qui le font malgré tout, ils se condamnent eux-mêmes, tu vois ? Alors que quand tu ne le sais pas, tu ne te condamnes pas. Mais ça n'empêche pas que tu te détruis quand même, puisque c'est mauvais. Donc la loi a été donnée au peuple d'Israël pour qu'il comprenne ce qui était juste, de ce qui était injuste, de ce qui plaît à Dieu, de ce qui lui déplaît, aussi de ce qui détruit leur vie et de ce qui ne les détruit pas. Et cette loi, elle était d'une part pour limiter le péché dans la vie du peuple d'Israël, mais il faut bien savoir que personne n'était capable de respecter la loi. Pas un seul homme ne pouvait respecter la loi parce que les gens n'étaient pas nés de nouveau à l'époque. Donc du fait qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, il y a la nature du péché qui était en eux et ils étaient portés à pécher. Donc la loi amène la connaissance du péché et aussi le fait de dire ne fais pas ça, obligatoirement ça pousse les gens à le faire parce que il suffit de donner une interdiction pour que systématiquement il y a une envie de faire ce qui est interdit. Je sais pas pourquoi ça produit dans le cœur des jeunes, spécialement des jeunes, même des enfants et aussi d'ailleurs des adultes. Si je dis, tu peux venir chez moi, mais dans mon salon, il y a un placard là qui est fermé. Je ne veux pas que tu regardes dedans. Il suffit que je dise ça pour que, obligatoirement, tout le monde va avoir envie d'aller regarder dedans. Alors que si le placard était là et que je n'avais rien dit, personne n'y aurait même pensé, tu vois. Ouais. Donc, il y a quelque chose d'assez étonnant par rapport à la loi. C'est qu'elle amène la connaissance du péché, mais aussi du fait qu'il y ait cette loi qui soit là, ça amène les gens à avoir envie de la transgresser. Et en fait, la loi, c'était le meilleur de Dieu en attendant que Jésus ne vienne sur la terre. Donc, c'était d'une part pour leur montrer ce qu'est le péché, pour limiter le péché, et aussi pour leur montrer qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Oui. Ils avaient besoin d'un sauveur. Donc, quand on prend la parole de Dieu, on dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi », ça ne veut pas dire « Je respecte les lois de l'Ancien Testament ». Les choses qui sont, il y avait un certain nombre de choses, tu peux lire dans le Deutéronome, des choses que les gens devaient respecter, devaient pas respecter, et nous ne sommes plus sous cette loi, et ça ne veut pas dire que quand on n'est pas sous une loi, on peut vivre n'importe comment. Il y a vraiment quelque chose que Dieu a fait, parce que Dieu ne change pas. Le péché, c'est toujours le péché, mais il nous a délivré de la loi. Et j'aimerais que, avant qu'on parle du fait de serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher, qu'on vienne un petit peu à cette compréhension de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et ça, on peut lire d'abord déjà dans Galates au chapitre 5. Et au verset 1, Galates chapitre 5, verset 1, si tu l'as, tu peux lire ça.
Ça dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
Donc là, on nous parle de la servitude. Bien sûr, ça nous parle du péché, tu vois. Il y a aussi un passage dans Corinthiens que j'aimerais qu'on puisse lire, que ça nous éclaire. Et puis après, eh bien, on ira dans le livre des Hébreux. Alors, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, Et au verset 20,
ça dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Donc nous avons été rachetés de la malédiction, nous avons été rachetés du péché, nous ne sommes plus sous la loi, comme on vient de le lire. Et maintenant on peut aller dans Hébreux, Hébreux au chapitre 10 et au verset 16. Du verset 16 jusqu'au verset 18, ça nous montre l'alliance dans laquelle nous sommes.
Voici Hébreux 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.
Et en fait, là, dans l'Épître aux Hébreux, on nous cite un verset qui se trouve dans Jérémie, chapitre 31, versets 33 et 34. C'est exactement le même texte, donc ce n'est pas nécessaire de le lire. Parce que Dieu voyait bien que le peuple d'Israël, d'abord, ne respectait pas la loi. Ils étaient continuellement dans l'idolâtrie, ils se comportaient mal. Et il parle de la nouvelle alliance qu'il va faire avec ceux qui vont recevoir, avec son peuple, c'est-à-dire ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ce sont ceux qui sont rentrés dans la nouvelle alliance. Ouais. Donc, il y a des Juifs qui sont rentrés, il y a des païens qui sont rentrés. Et la Bible montre qu'un jour, tout Israël va se convertir au Seigneur Jésus. Et là, à ce moment-là, ils seront dans l'alliance. Mais pour l'instant, ils n'y sont pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si un Juif ne reconnaît pas Jésus comme son sauveur personnel, il n'est au bénéfice d'aucune promesse. Il est comme un homme ordinaire. Bon, c'est vrai que Dieu ne se souvient aussi de son peuple à un certain niveau, mais ça n'empêche pas que si un Juif ne reconnaît pas Jésus comme sauveur personnel, eh bien il va en enfer aujourd'hui, comme tout n'importe quel païen. Et Jésus avait averti les pharisiens, les scribes, en leur disant « Vous ne voulez pas venir à moi ?» Vos péchés ne seront pas pardonnés et vous ne pourrez pas être sauvés. Et bien sûr, Jésus était désolé de cela, tu vois. Donc, pour parler de l'alliance, eh bien, cette loi, elle a été inscrite dans notre cœur à notre nouvelle naissance.
Ouais.
Donc, quand on est né de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous étions inconvertis, nous avions en nous cette nature de péché, donc la mort en nous. On reçoit Jésus comme son sauveur personnel, le sang de Jésus efface tous nos péchés. Le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau et notre esprit est recréé. Tu vois, notre corps reste le même, notre âme, il y a quelques changements qui s'effectuent parce qu'il y a une influence forcément de notre nouvelle naissance. Mais par exemple, si avant de naître de nouveau, tu n'aimais pas les haricots, tu ne vas pas les aimer davantage après ta nouvelle naissance. Donc, il y a des choses qui ne changent pas au niveau de notre âme parce que notre âme, c'est le siège de nos pensées, de nos émotions et c'est aussi notre volonté. Il y a quelque chose qui change parce qu'il y a l'influence de l'Esprit de Dieu dans notre esprit qui nous amène à changer. Mais donc, en gros, c'est notre esprit qui est sauvé, qui est né de nouveau. Et du fait que notre esprit est né de nouveau, ça veut dire que bon, notre conscience est purifiée. D'ailleurs, c'est écrit un petit peu plus loin, au verset 22, il est dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Et en fait, quand nous sommes nés de nouveau, notre conscience a été purifiée. Notre conscience, c'est par rapport au péché, par rapport à ce qui plaît ou ce qui déplaît à Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, au fond de son cœur, il sait ce qui plaît à Dieu, il sait ce qui lui déplaît. Parce qu'il est né de nouveau. Pour un inconverti, c'est absolument impossible. Mais pour un chrétien né de nouveau, c'est tout à fait le cas. Et bien sûr, on doit garder cette conscience pure, tu vois.
Ouais.
Parce que moi, j'ai connu des chrétiens qui péchaient, qui vivaient dans le péché, qui se séduisaient eux-mêmes. Ils arrivaient, certains, jusqu'au point où ils te mentent effrontément, ouvertement. Tu sais qu'ils mentent, tu leur montres par A plus B, tu vois, comme cette feuille-là que j'ai dans la main. Tu leur montres, tu le dis. Ça c'est une feuille de papier, ils vont te dire non, c'est un crayon. Tu vois, pour te montrer jusqu'où parfois ça peut aller quand on ne garde pas notre conscience pure devant Dieu, tu vois. Elle a été purifiée lors de notre nouvelle naissance. C'est pour ça que au fond de notre cœur, quand nous sommes nés de nouveau, nous savons ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et quand un chrétien s'approche du péché, il y a comme une sonnette d'alarme qui s'allume dans son cœur, tu vois. Il sent que, attention là, tu vas quelque part qui n'est pas bien. Donc, la parole de Dieu, bien sûr, elle nous montre le chemin sur lequel nous devons marcher. Bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui sont claires, parce que quand on parle de péché, par exemple, on parle du Nouveau Testament, il y a des choses qui sont tout à fait claires. On peut voir ça dans l'Épître aux Galates. Ce n'est pas parce qu'on vit dans le Nouveau Testament que le Nouveau Testament ne précise pas ce qu'est le péché. Bien sûr, il y a certaines choses qui sont claires dans l'Ancien Testament où Dieu dit ça c'est du péché, ça ce n'est pas du péché. Et dans l'Épître aux Galates aussi, on peut voir dans le chapitre 5, il nous parle des œuvres de la chair. Et quand on parle de la chair, c'est cette partie de l'être humain qui n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, qui ne veut pas obéir à Dieu et qui pêche. Et parfois, le péché, ce n'est pas ce qu'on appelle le péché. Il y a des choses qui sont évidentes pour tout le monde. Mais il y a des choses qui ne le sont pas. Tu vois, par exemple, les chrétiens qui ont un esprit religieux, ils vont faire beaucoup d'histoires pour des détails, tu vois, comme les pharisiens le faisaient à l'époque du temps de Jésus, et qui disent ça c'est du péché, et d'une certaine manière ils ont raison, je ne veux pas dire qu'ils ont tort, ils ont raison, mais eux-mêmes vivent dans des choses qui ne sont pas justes, qui ne plaisent pas à Dieu, et par contre ils ne vont pas reconnaître ça comme du péché. Tiens, si tu peux nous lire Galates 5, eh bien, à partir du verset 19, ça nous montre clairement, tu vois, ces choses-là.
Ça dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Donc tu vois là, il y a une liste qui est bien claire, qui nous montre ce qu'est le péché, ce qui n'est pas le péché. D'abord, je veux préciser que quand on parle d'hériter le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire que si un chrétien, par exemple, va s'enivrer, ça ne veut pas dire qu'il va en enfer. Ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Il dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et dans Romains chapitre 14, verset 17, il est dit, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc un chrétien qui vit dans le péché, il ne peut pas vivre dans la paix, il ne peut pas vivre dans la joie, ni même dans la justice de Dieu, parce que il sort de la volonté de Dieu. Il va être sauvé, mais bon, comme au travers du feu, tu vois. Et puis il y a aussi une solution par rapport au péché, c'est que celui qui pêche, eh bien, il reconnaît ses péchés, il demande pardon à Dieu et le sang de Jésus le purifie automatiquement, tu vois. Mais par rapport à cette liste, il y a une chose qui faut qu'on voie et qu'on voie très bien, tu vois. On parle de la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, et ça, en principe, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde sait que ce sont des choses qui sont du péché, et souvent on pointe du doigt des chrétiens qui ont ce genre de problèmes, qui chutent dans ce genre de choses de temps à autre. Et moi, j'ai déjà entendu des histoires comme ça de serviteurs de Dieu ou de chrétiens qui ont péché, et 10 ans après on va leur ressortir encore ces problèmes qu'ils ont eu 10 ans auparavant, alors que ils se sont repentis dans l'entretemps. Et ça aussi, j'aimerais quand même dire que si un chrétien s'est repenti, Dieu lui a pardonné, et personne n'a le droit de reparler de cette chose là tu vois. Hein? Par contre, on parle de querelle, jalousie, animosité, dispute, division et secte. Secte, ça veut dire séparation, tu vois. Et tout ça, ça fait et l'envie, tu vois, l'envie. Ça fait partie de la liste des œuvres de la chair. Ça fait partie des choses qui déplaisent à Dieu et dans lesquelles beaucoup de gens vivent d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et aussi, on doit faire attention. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et quand tu donnes à la parole de Dieu une place prédominante dans ta vie, eh bien, tu ne vas pas te quereller avec quelqu'un. Même si tu as raison, tu préfères laisser tomber en disant, Seigneur, toi, tu connais toute chose. Je ne veux pas rentrer dans une dispute avec quelqu'un. Je ne veux pas me fâcher avec cette personne parce que je sais que ça te déplaît. Et si je rentre dedans, moi aussi, je perds ma paix, tu vois. Mm-hmm. Et c'est là où on doit serrer la parole de Dieu dans nos cœurs.
Oui, en fait, j'aimerais demander cette parole qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur, enfin de ne point pécher contre toi ». Qu'est-ce que ça veut dire, serrer sa parole dans la parole de Dieu ?
Ça veut dire que tu mets la parole de Dieu en premier dans ta vie, quoi que tu puisses vivre. Et souvent, les chrétiens qui vivent dans le péché ou qui pêchent, ils n'ont pas prévu ça en se levant le matin. C'est parce qu'ils se trouvent confrontés à des situations ou à des pressions, tu vois. Quelqu'un, par exemple, je fais exprès de parler de disputes, tu vois. Mmh. Hein, quelqu'un vient te voler quelque chose ou te faire du mal et tu vas te disputer avec cette personne-là, tu vois. Mmh. Et en fait, serrer la parole de Dieu dans ton cœur, c'est prendre cette décision de mettre la parole en pratique par rapport à la circonstance que tu vis. C'est-à-dire, si au lieu de te disputer avec quelqu'un, tu préfères pardonner, remettre les mains du Seigneur. Et d'abord, ça va amener l'autre à changer vis-à-vis de toi, à changer vis-à-vis de Dieu et à changer d'une manière générale parce qu'il aura tellement honte qu'il ne recommencera pas, tu vois.
Ouais. Oui, chers auditeurs, vous qui êtes en train de nous écouter, tu peux te demander comment un jeune homme peut rendre pure ses voies. On a eu la réponse, Isabelle nous le dit en quelques mots.
En quelques mots, aimer le Seigneur, détester le péché et mettre la parole de Dieu dans nos vies en premier lieu, quelles que soient les circonstances que nous vivons. Parfois, c'est pas toujours facile, surtout quand on sait quand on est dans notre bon droit, mais Dieu est capable de s'occuper de tes intérêts bien mieux que toi-même.
Oui, oui, chers auditeurs, que nous puissions faire confiance au Dieu à qui nous avons cru, car il est capable de nous rendre justice et que nous puissions agir selon la parole, mettre la parole de l'avant. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, Isabelle.
Au revoir, Nadine. Au revoir à tous et à la semaine prochaine.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.